Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, le Conseil de sécurité fait le point de la situation au Soudan du Sud. À Genève, l'OMS prévient que les problèmes d'approvisionnement en équipements de protection individuelle face à l'épidémie de coronavirus mettent des vies en danger. Au Conseil des droits de l'homme, l'expert de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme a présenté son rapport. Et en dossier, un économiste des Nations Unies nous explique les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale et en particulier sur les chaînes de production mondiale. Le Conseil de sécurité s'est réuni ce mercredi sur le Soudan du Sud, l'occasion pour le représentant spécial de l'ONU dans ce pays, David Scherer, de faire le point sur les récentes bonnes nouvelles en provenance du Soudan du Sud, longtemps déchiré par un conflit civil. Pascal Sim nous en dit plus.
Au Conseil de sécurité, l'envoyé de l'ONU au Soudan du Sud a mis en avant les développements positifs qui ont remis le pays sur le chemin d'une paix durable. Le président Salva Kiir a accepté de revenir à un découpage administratif du pays en 10 États qui prévalait avant 2015. Avec ce changement, son opposant Riek Machar a accepté le défi de rejoindre un gouvernement de transition à Juba en qualité de premier vice-président, bien que les arrangements en matière de sécurité transitoire ne soient pas encore mis en place. Si l'Ouganda, le Soudan, l'Afrique du Sud et les organisations régionales ont appuyé ces efforts, les progrès sont à mettre au crédit de la volonté politique dont ont fait preuve Kiir et Machar, affirme David Scherer, soulignant que les deux hommes ont fait passer l'intérêt de leur pays avant le leur. Le premier ayant fait une concession importante et le second ayant accepté de revenir dans la capitale. Nous parlons de courage en temps de guerre et de bataille, mais la paix requiert également du courage, a rappelé David Scherer. Au Soudan du Sud, la priorité est désormais de former un gouvernement de transition afin que le pays et l'accord de paix puissent aller de l'avant. Les partis négocient actuellement la répartition des portefeuilles ministériels. Face à la prudence voire au scepticisme que suscite ce nouveau départ, David Scherer a rappelé aux partenaires internationaux qu'ils doivent rester engagés. L'avenir du Soudan du Sud en dépend, a souligné l'envoyé de l'ONU.
Retour sur l'épidémie de coronavirus. Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, on compte désormais plus de 93 000 cas confirmés et quelque 3 198 décès dans 77 pays. L'OMS signale que les problèmes croissants d'approvisionnement en équipements de protection individuelle mettent des vies en danger. Christina Silvero nous en dit plus.
La pénurie en équipements de protection individuelle due à une demande plus forte, aux achats paniques, à la constitution de stocks et à l'usage abusif mettent des vies en danger face au nouveau coronavirus et à d'autres maladies infectieuses, a averti l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, les médecins, le personnel infirmier et les autres agents de santé en première ligne sont dangereusement sous-équipés pour soigner les patients atteints de COVID-19 du fait de leur accès limité aux gants, masques médicaux, respirateurs, lunettes de protection, écrans faciaux, blouses et autres tabliers. L'OMS appelle les fabricants et les gouvernements à agir d'urgence pour augmenter la production, atténuer la restriction des exportations et mettre en place des mesures propres à empêcher la spéculation et la constitution de stocks abusifs. Depuis le début de la flambée du nouveau coronavirus, les prix ont grimpé en flèche. Les prix des blouses se sont multipliés par deux, ceux des respirateurs N95 par trois et ceux des masques chirurgicaux par six. Pour répondre à la demande mondiale croissante, l'OMS estime qu'il faut augmenter la production de 40%.
Le Conseil des droits de l'homme a entendu ce mercredi à Genève la dernière intervention de Michel Forst. Le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, qui quittera prochainement ses fonctions, a fait notamment état de ses observations concernant la Colombie et la Mongolie. En préambule, il a dressé le bilan de ses 6 années de mandat qui l'ont conduit à visiter 60 pays.
Les défenseurs nous rappellent tous les jours à notre humanité. En condamnant le silence complice de la communauté internationale dans les conflits armés en Syrie, au Yémen, où les populations civiles sont réduites à des enjeux politiques. En révélant les ventes d'armes, les scandales environnementaux ou encore la mauvaise gouvernance, la corruption. En questionnant les pratiques sexistes, racistes, discriminatoires de nos sociétés. Je l'ai souvent dit devant le Conseil, c'est en analysant la situation de la société civile et des défenseurs que souvent on prend le pouls de nos sociétés, de leur ouverture, de leur tolérance à la critique, de leur engagement à faire vivre les droits pour toutes et pour tous. Car il n'y a pas de gouvernement plus fragile que celui qui veut faire taire toute opposition. Il n'y a pas de gouvernement plus sourd que celui qui cherche à réduire au silence les populations fragilisées, marginalisées, oubliées. Les défenseurs nous tendent ce miroir grossissant qui dévoile ce que nous aimerions cacher. Ils nous montrent que la croissance, que la technique, que ce que nous appelons parfois le progrès ne sont que des leurres si des millions de personnes en sont exclues. Les défenseurs nous rappellent que la parole politique a encore un sens.
L'épidémie de coronavirus ne cesse de s'étendre dans le monde. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, cette épidémie a aussi des conséquences sur l'économie mondiale. Au micro d'Alpha Diallo, David Bichetti, économiste à la CNUSED, revient sur ses conséquences et plus particulièrement sur les effets de l'épidémie sur les chaînes de production mondiale.
Alors, l'effet global, basé sur les données qui ont été publiées pour février, est d'environ 50 milliards de dollars.
50 milliards pour la seule Chine ou bien les conséquences dans tout le monde?
Ce sont les conséquences mondiales. Le fait que la Chine n'est pas en mesure de fournir ses biens intermédiaires qui sont essentiels pour la fabrication de produits finaux dans le monde entier.
La CNUSED parle d'une réduction drastique de l'index des produits manufacturiers en Chine. Ça se manifeste comment au quotidien et pour les autres pays?
Alors, c'est un index qui effectivement a chuté de 22 points de pourcentage en février par rapport à un niveau de 50. Ça se manifeste dans le fait que l'activité manufacturière chinoise a ralenti fortement. Et du coup, toute l'industrie mondiale qui avait sa dépendance sur la Chine pour se fournir se retrouve en difficulté. Dans les prochains mois, on va avoir des chiffres pour d'autres pays et on va voir comment l'impact va se matérialiser. Il faut aussi tenir compte que ces industries ont quelques stocks, mais une fois que ce stock est épuisé et si la Chine n'est toujours pas en mesure de fournir à plein régime ces biens intermédiaires dont ces industries ont besoin, on verra un effet plus grand sur l'économie mondiale.
Mais quels sont les secteurs les plus affectés?
Les secteurs qui sont les plus affectés, c'est le secteur automobile, le secteur des machines électriques, des produits chimiques, des instruments de précision, pour en mentionner quelques-uns. Ce sont les secteurs qui sont les plus affectés, mais ces secteurs sont quand même relativement vastes.
Quels sont les pays, les économies les plus affectées par ces réductions de chaînes de production en Chine?
D'après nos calculs, les économies les plus affectées sont l'Union européenne, le Japon, la République de Corée, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Vietnam. Donc ce sont des pays qui sont très imbriqués dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.
Est-ce que vous avez constaté, c'est-à-dire la CNUSED, une rupture de stock pour certains pays dépendants de l'industrie manufacturière chinoise?
Pour l'instant, nous ne l'avons pas constaté. Il y a de l'évidence anecdotique où certains capitaines d'industrie se plaignent des difficultés à se fournir en certains produits intermédiaires. Maintenant, ça dépend de la capacité qu'ont les Chinois à remettre leur économie en marche à plein régime. Et apparemment, ils ont réussi à augmenter le rythme ces derniers jours et ces dernières semaines. Et puis aussi, cela dépend de la facilité avec laquelle ces entreprises ou ces industries sont capables de trouver d'autres fournisseurs. Sur le court terme, c'est pratiquement mission impossible. Est-ce que cela va mener à une réflexion plus globale sur la globalisation et les effets pervers? Ça, il est trop tôt pour se prononcer.
Dernière question, est-ce qu'il y aurait des gagnants, des pays ou des secteurs qui vont bénéficier de ces problèmes que connaît aujourd'hui la Chine?
Il peut y avoir quelques secteurs ou quelques pays qui risquent de gagner sur le court terme. On peut imaginer que certains pays peuvent avoir une capacité résiduelle à fournir certains produits. Sur le long terme, ça a l'air un petit peu plus difficile. En fait, ça dépend de comment l'épidémie de coronavirus évolue et avec quelle intensité elle va se développer et les mesures qui vont être prises. Est-ce que, par exemple, en Italie, est-ce que le gouvernement italien va imposer des mesures aussi drastiques que le gouvernement chinois a imposées? Il est encore trop tôt pour le dire. Comment l'épidémie va se développer aux États-Unis? Les États-Unis qui sont in fine les plus gros consommateurs mondiaux. Quel va être l'effet sur les produits finis? Les gens qui actuellement, par exemple, décident de repousser leurs vacances, est-ce qu'ils vont compenser pour cela? Il est encore trop tôt pour le dire. Est-ce que les compagnies aériennes, face à la baisse de la demande, on a déjà de l'évidence que certaines compagnies aériennes ont réduit totalement ou en tout cas drastiquement leurs vols vers la Chine ou vers l'Italie, est-ce qu'elles vont baisser leurs prix pour essayer de stimuler la demande? Ce sont toutes des questions qui restent en suspens et pour lesquelles on n'a pas de réponse actuellement.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.